Et voilà, nous voilà en direct sur Fréquence Mistral 99.3 avec mon invité. Il s'agit de Lydie Aubert-Gosselin. Bonjour.
Bonjour.
On va donc faire connaissance et présenter aux auditeurs de Fréquence Mistral. Vous êtes professeur de yoga depuis longtemps maintenant, diplômé.
Oui.
On va revenir sur, bien sûr, ce qu'est le yoga rapidement pour qu'on comprenne un peu, puisqu'il y a tellement d'évolutions maintenant et de types de yoga. Qu'est-ce qu'on appelle le yoga ?
Alors, le yoga, c'est une technique vraiment millénaire hein, qui vient presque de la nuit des temps. On ne sait même pas dater vraiment. Yoga, ça, c'est un mot sanskrit qui veut dire, qui vient du sanskrit yuj, qui veut dire unir, réunir. Unifié, en fait, c'est toute une technique avec différents outils qui fait partie d'une médecine ancestrale qui est l'Ayurveda et qui nous donne les moyens de reprendre en main notre être, en fait, et qui va nous donner les moyens d'être, en fait, en yoga. Le yoga, souvent, on dit « je fais du yoga », mais au bout du compte, c'est être en yoga. C'est développer cette part de nous, d'être humain, voilà, et de pouvoir reprendre... possession de notre mental. En fait, le premier truc en yoga, c'est de constater que notre mental, il est tout le temps en train de travailler, de penser. Et donc, c'est de reprendre en main ce cheval sauvage, un peu qu'est notre mental, pour calmer le jeu et voir les choses telles qu'elles sont. Et ça, c'est très dur. Donc, on utilise le corps, bien sûr, par les postures. On va mettre le corps dans différentes positions. Ça va nous ramener un petit peu à notre corps, le ressentir, essayer d'être justement, de sentir, d'écouter le corps, de voir les messages qu'il nous envoie et de les comprendre un petit peu. Il y a la partie du souffle aussi, évidemment. On utilise la respiration parce que c'est le meilleur moyen pour arriver à calmer des émotions, par exemple. C'est des techniques pour un peu plus pousser après. Enfin, il y a différents niveaux, bien sûr, au yoga. Et puis, il y a la part du mental, bien sûr, qu'on essaye de garder présent. Voilà, c'est vraiment une grande présence à nous-mêmes et au monde et aux autres. Voilà, ce n'est pas du tout quelque chose qui est juste uniquement basé sur une technique physique, parce qu'on voit beaucoup ça. C'est la première approche, en fin de compte. On vient au yoga parce qu'on n'est pas bien, parce que ça ne va pas dans le corps, parce que, de toute façon, le mental, il est lié à notre corps et on voit bien qu'on est débordé. Surtout dans notre société, c'est encore pire que peut-être qu'avant. Où vraiment, tout le monde ressent ce besoin de s'apaiser. Et en fait, c'est vraiment ça la technique du yoga, c'est d'abord le mental, apaiser le mental pour pouvoir voir les choses telles qu'elles sont. Arrêter de voir à travers nos peurs, nos envies, nos désirs, tout ce qui va animer en fait un peu notre matière. Hein. Mais en fin de compte, souvent on est perdu dans ce voile-là qui est nos peurs. Nos désirs, voilà, c'est
donc,
ça.
Se rendre disponible et être présent
à l'instant
l'instant même.
Voilà.
Et ne pas, c'est pas facile de calmer ses pensées, bien sûr.
Non.
La respiration va nous permettre, se focaliser sur la respiration permet de moins avoir
de se disperser.
De se disperser.
Voilà, un mental qui est dispersé, c'est un mental en fait qui... On va perdre une énergie dingue, quoi, en fait. Si on arrive à être apaisé, déjà, on garde en nous cette énergie vitale que nous avons tous. Enfin, si on est en vie, c'est parce qu'il y a une énergie. Et cette énergie-là, plus on va être dans le mental avec plein de choses à faire, dispersé, dans un brouillard... Cette énergie qu'on a en nous, cette vitalité, elle s'éparpille et du coup, on est fatigué, on n'est pas concentré, il nous arrive des accidents, des choses, voilà, on n'est pas là, quoi. On est dans cette dispersion. Donc, c'est dur, c'est vrai que c'est très dur d'arriver à se refocaliser. Notre corps nous aide, justement, si on se met à l'écoute, on va déjà calmer le mental, se mettre à l'écoute. Et puis, comme c'est très difficile, la respiration, tu vas te concentrer sur un souffle, tu vas allonger ton souffle, il va devenir plus régulier, plus apaisé, et du coup, le mental, il suit, il est là. Mais bon, c'est sans cesse, ton mental va vouloir reprendre le pouvoir, hein, parce que ça, hop, ça y est, on va te dire, tiens, j'ai pas fait ci, j'ai pas fait ça, je dois faire ci, ou j'ai cette préoccupation-là qui est en moi, qui m'habite complètement, et je peux plus rien faire d'autre que d'être dedans. Et bien justement, par le souffle, par la concentration que tu vas mettre. Et les effets sont assez rapides. Hein. Tu fais 10 minutes de respiration, ça y est, tu t'es déjà apaisé. Tu peux voir les choses autrement. Ça, c'est la première étape du yoga, vraiment. Après, bien sûr, il y a différents niveaux de conscience, puisque c'est un éveil de la conscience, en fin de compte. Hein. Tu t'éveilles à toi-même, tu t'éveilles au monde, tu t'éveilles aux autres. Il y a toute une philosophie, c'est ça. En fait, avec le yoga, ce n'est pas une technique uniquement dans la matière physique, c'est vraiment quelque chose qui nous fait réfléchir sur nous-mêmes. Et il y a des textes qui nous aident à développer une pensée qui va être la nôtre, en fin de compte. Parce qu'il n'y a pas de recette miracle. Il y a des gens qui préfèrent en yoga, par exemple, je ne sais pas, il y a plein de choses en yoga. Il y a du chant aussi, par exemple. Il y a des gens, c'est ça qui va leur donner une énergie dingue et qui va les amener à être plus conscient, plus présent. D'autres, ça va être plus la partie physique. Hein. On voit chez les maîtres en yoga, de toute façon, il y a différentes écoles et chacun a mis un peu l'accent sur ce qu'il sentait, lui, important. En fait, je pense qu'il y a autant de yoga que de profs de yoga.
Oui. Et alors, le fait de se recentrer sur soi, c'est vrai que c'est bien d'être accompagné, j'imagine. Quelqu'un qui est plein d'angoisse et qui a envie de fuir ses angoisses, s'il se recentre sur lui, est-ce que ça peut amplifier les angoisses ?
Alors, en fait, c'est difficile d'arriver justement à amener toute notre attention sur une seule chose. Et c'est ça qu'on demande au début. Et évidemment, quand on va se concentrer, par exemple, sur une position du corps, hein, par exemple, on va essayer de bien placer sa colonne vertébrale, de pouvoir que le corps soit bien placé, détendu, pour respirer bien, parce que tout est lié. Si vous êtes tendu, évidemment que les muscles de la respiration, c'est des muscles, en fait, hein, on respire par des muscles. Donc, si ces muscles sont contractés, tout tendus et tout, bien sûr que le souffle, il n'est pas du tout épanoui. Et si vous écoutez la respiration de quelqu'un, vous entendez un petit peu son état d'âme intérieure. Hein. Mm-hmm. On dit que la respiration, elle reflète l'âme, un petit peu l'état intérieur de la personne. C'est vrai que quand on est en colère, la respiration, elle n'est pas pareille que si on est détendu, en relaxation totale. Parce que le yoga, c'est aussi ça. C'est aussi ce... Il y a un yoga qui s'appelle le yoga nidra, qui est vraiment quelque chose de... Là, le corps reste complètement immobile. On appelle ça relaxation parce que c'est chez nous comme ça. Et en fait, on va essayer de demander à la conscience de rester présente. Et donc, il y a tout un cheminement en yoga nidra qui va faire un travail intérieur. On va essayer de se connecter sur différentes parties du corps. On appelle ça la rotation de la conscience. Donc, on se promène un peu dans le corps pour essayer de sentir... Et c'est pas évident de sentir le troisième orteil du pied gauche, par exemple. Vous voyez, et petit à petit, on y arrive. On investit le corps. Et donc, la conscience est censée rester active. Mais comme on arrive entre veille et sommeil, dans ces zones sophroliminales, eh bien, en fait, des fois, on sombre un petit peu. On va se placer dans un comment la conscience reste plus présente, quoi. Je veux dire, on est comme dans un sommeil. On sombre un petit peu. Puis des fois, on est quand même là, on sent que tout relâche et c'est une aventure intérieure vraiment très intéressante. Ensuite, il va y avoir des visualisations. Il y a tout un procédé de respiration, de visualisation. C'est tout un processus, en fait, qui laisse la personne vraiment ressourcée, détendue. Là, le corps s'est relâché totalement. Et puis la conscience, on essaye de la garder. Mais évidemment que, hop, on part. Et puis, dans les visualisations, il y a des choses qui nous amènent à des émotions, à des souvenirs. En fait, c'est un travail intérieur très, très important même, qui va placer la personne plus en elle-même, quoi. Voilà.
Et alors, il y a des personnes, évidemment, pour qui c'est très, très difficile et qu'il y a même presque un rejet de la position statique, enfin, de rester sans parler.
Oui, oui, tout
à fait.
Il y
en a que ça met vraiment très mal à l'aise et qui ne supportent pas, qui vont tout de suite se redresser.
J'ai connu des gens qui, même allongés simplement, d'être allongés, ne se sentaient pas du tout en sécurité, par exemple. Mais le yoga, c'est vraiment comme une... J'ai un prof qui dit ça, que c'est comme une grosse boîte à outils. En fait, l'enseignant, il peut toujours adapter. Dans un cours de groupe, c'est vrai que c'est plus difficile d'adapter pour chacun, mais il y a toujours des solutions. Pardon. Si quelqu'un ne peut pas pratiquer, parce que les postures sont difficiles aussi, hein, il y a des postures faciles, des plus difficiles, on s'adapte au niveau de la personne, de ses possibilités physiques et mentales aussi, et respiratoires. Et en fin de compte, petit à petit, comme ça, on arrive à repousser un peu nos limites. Et bon, effectivement, il y a des personnes, je donne des cours aussi à des personnes qu'on nomme adultes handicapées avec des problèmes psy. Et en fin de compte, c'est pareil, ça dépend de la sensibilité du prof, en fin de compte. Si on est capable d'entendre, d'écouter la personne, de se mettre vraiment en phase avec elle, on va pouvoir sentir ce qui va être sur le moment bien pour elle ou pas bien pour elle. Évidemment, en cours individuel, ça c'est bien plus évident et plus efficace aussi. Voilà. Ouais. Après, les cours de groupe, c'est bien aussi, hein, mais je donne les deux. Je donne les cours individuels aussi, parce que là, la personne, elle arrive, elle te dit, bah, ça va pas. Là, il y a ça qui va pas, que ce soit physique, mental, respiratoire, émotionnel. Et donc, du coup, on va trouver une séance pour elle, qu'elle va pouvoir, elle, pratiquer pour elle. Parce que c'est ça aussi, le yoga. C'est pas seulement dans une salle, on s'accorde un petit moment, c'est dans la vie entière. En fait, on considère, il y a un grand philosophe indien qui s'appelle Sri Aurobindo, qui a écrit il y a longtemps, qui a dit « La vie est un yoga et le yoga est la vie ». Pour dire que chaque expérience que l'on fait, dans chaque instant, tout ce que l'on peut vivre, même si c'est des choses très dures, eh bien, on peut être là, vraiment pleinement, et se rendre compte vraiment en conscience de ce qui se passe, ou alors on peut être en train de fuir la situation, ou d'être complètement inconscient, de ne pas se rendre compte, ou de combattre, voilà. Hein. Alors là, on est plus dans l'animal presque, hein. La fuite, le combat, ou l'inconscience. Nous, êtres humains, le yoga nous demande voilà, justement d'éveiller notre conscience. C'est bien ça le plus important. Et c'est la base. Hein. Après, il y a encore un autre cheminement plus spirituel, etc. Mais il faut prendre la base, déjà. Je pense qu'on ne peut pas se couper. On a deux pôles, hein. Il y a la terre, il y a le ciel, et nous entre les deux. Hein.
Alors le yoga, un apaisement vers soi avec la respiration, un apaisement mental, mais aussi peut soigner, peut aider si on a des problèmes de thyroïde ou de circulation. Il y a des postures qui aident, favorisent, même pour guérir un rhume.
Tout à fait, tout à fait. Les respirations aussi. En fait, il existe un yoga thérapeutique hein, depuis très très longtemps. C'est évident que... Il y a même un ostéo que je connaissais qui m'a dit, en fin de compte, ça ressemble presque à de l'auto-ostéopathie. Si vraiment on le fait en conscience, hein, c'est bien évident. Mm-hmm. Parce que si on n'est pas en conscience, on peut se faire très mal aussi en yoga. Hein. C'est vrai que si on veut absolument... Alors c'est là où on parle de philosophie aussi, c'est-à-dire qu'on a un ego qui est très grand souvent pour tout le monde, hein, mm-hmm. et qu'on veut faire les choses... On veut arriver, on veut regarder l'autre et puis faire comme lui parce que c'est très beau, parce que là, comment elle est parfaite, cette posture. Et ça, c'est pas du tout une attitude en yoga. En yoga, il n'y a pas de...
Oui, le but, c'est pas la prouesse voilà. gymnastique d'arriver à être en lotus ou voilà. avoir la tête...
Voilà, c'est ça. Avec le angle droit. Il n'y a pas de compétition en yoga. Ça n'existait pas parce que maintenant, en Inde, il paraît qu'il y a... Ils arrivent à faire des compétitions de posture de yoga. Donc là, on part dans un délire un peu parce que c'est plus du tout être
l'esprit.
En yoga. Non, voilà. Après, c'est notre société qui veut ça aussi. On est tout le temps dans la compétition. C'est pour ça qu'on a du mal à accepter aussi. Parce qu'on est tout le temps en train de vouloir se comparer, juger. Mmh. On juge beaucoup, tout le temps. Et d'ailleurs, les émissions de télé, tout ça, on nous demande en plus de juger, de donner des notes, d'éliminer des gens. Mmh. Alors que ça, en yoga, mais vraiment, il n'y a aucune pensée comme ça. Pas de jugement, déjà. Mmh. On essaye de ne pas se juger soi-même, parce qu'on est tout le temps aussi en train de se reprocher des choses, de vouloir être, il faudrait que ci, il faudrait que ça. En fin de compte, c'est pas ça du tout, quoi. Déjà, se retrouver, c'est déjà compliqué. Alors, si en plus, on se met à se juger, et on le fait tous, hein, je me mets pas à part, d'ailleurs. C'est un cheminement, vraiment, que chacun s'approprie, en fait. Après, il y a des aides, mais il n'y a pas de... Si vous voulez, on parle souvent, là, il y a des scandales aussi avec des gourous, des gens qui manipulent des gens. C'est vrai qu'on pourrait très facilement manipuler des gens à travers le yoga, bien sûr, mais à travers tout, n'importe quoi. Donc, l'important, c'est de reprendre maîtrise de soi, d'être conscient de ce qui se passe dans la réalité de soi et du monde. Et en fait, voilà, c'est la base. La base, c'est ça, déjà, reprendre un peu possession de soi, de cette matière qu'on ne connaît même pas. Hein, quand on mange des trucs, on ne sent même pas si ça nous fait du bien ou pas. Voilà. C'est vraiment s'éveiller, quoi. Bouddha, c'est ça. Bouddha, la Bouddhi, on peut dire l'organe, entre guillemets. C'est pas beau, c'est pas, y a pas un organe, mais de l'éveil. Mais c'est ça, le Bouddha, ça veut dire l'être éveillé. En fait, c'est du bouddhisme, hindouisme. Enfin, c'est très, très proche. Mais ce n'est pas les mêmes choses vraiment complètement, mais c'est très, très proche. Le Tao aussi, en Chine. Enfin, y a beaucoup de civilisations, en fin de compte, qui parlent de ça. La même chose. Et qui voilà, c'est...
Alors, le yoga éveil de la conscience, et justement, vous intervenez en milieu carcéral. Alors, comment ça se passe pour un public emprisonné, en fait, derrière des barreaux? Comment on peut éveiller une conscience et qu'est-ce qui vous a mené à ça?
Alors, qu'est-ce qui m'a mené à ça? En fait, c'est le comité départemental d'éducation pour la santé dans les Alpes-de-Haute-Provence, c'est le CODES, qui est en charge de projet et qui m'avait contacté il y a un moment déjà pour me demander si je souhaitais enseigner dans ce cadre de la maison d'arrêt de Digne-les-Bains, puisque je suis de ce côté-là. Mmh. Et donc j'y suis allée, ça s'est bien passé. Et en fin de compte, ce qu'on fait, c'est qu'on met en place des conventions entre le CODES, justement, et puis la direction de la maison d'arrêt où on intervient. Et ça, c'est dans le cadre d'un projet pilote inter-service de prévention et de prise en charge des addictions en milieu carcéral. C'est un peu long à dire, mais c'est pour situer vraiment le cadre. Voilà, donc comme il y a beaucoup de problèmes d'addiction dans notre société entière, pas seulement dans les maisons d'arrêt, et que tout le monde n'est pas en addiction non plus en maison d'arrêt, mais bon, c'est vrai que c'est un problème important, et que justement l'addiction, c'est quoi? C'est quand on n'est plus du tout maître de soi. Là, alors là, on a dépassé des niveaux, on est vraiment esclave de quelque chose. Ça peut être n'importe quoi, d'ailleurs, quand je parle de ça, je me dis...
On pense l'alcool ou la drogue, mais il n'y a
voilà,
pas que ça. Oui.
Mais voilà, c'est une attitude, en fait, que notre société, encore une fois, encourage grandement, puisque c'est... Donc c'est difficile de combattre une addiction, mais il y a beaucoup de gens qui s'investissent, il y a beaucoup de services, de gens à l'hôpital. Là, il y a donc Madame Delobel, par exemple, qui est la psychologue de l'unité sanitaire de l'hôpital, qui intervient à la maison d'arrêt et qui gère un peu aussi ce projet, avec elle j'ai une relation. Donc on voit un petit peu les personnes qui ont vraiment besoin, le plus besoin, et en accord avec la direction de la maison d'arrêt. Donc les gens s'inscrivent, si vous voulez, on distribue un tract dans les cellules, et les personnes détenues s'inscrivent pour venir essayer une fois. Si ça leur plaît, ils s'engagent, et en général, c'est des sessions de 10 cours.
Alors c'est individuel ?
Alors non. Et là, en fait, la maison a des petites pièces, donc je ne pouvais pas prendre plus de 3-4 personnes. Mmh. Et donc, c'est 3-4 personnes qui s'inscrivent pour normalement une session de 10 séances. Alors après, évidemment, c'est difficile parce que la vie en maison d'arrêt, c'est pas... des fois, il y a des absences au cours parce qu'il y a des rendez-vous, il y a les avocats, il y a des maladies, il y a des sorties, il y a des extractions, Voilà, donc les personnes viennent et en général, enfin moi, de l'expérience que j'ai eue, j'ai jamais eu de soucis avec les personnes détenues et tous les retours que j'ai, c'est vraiment, c'est un moment c'est pendant 1h15, ils vont être un moment de calme parce que c'est vrai que en cellule, vous n'êtes pas tout seul, il y a du monde, il y a du bruit, c'est difficile de toute façon, on voit bien en ce moment. L'ambiance, si vous entendez les informations, on voit bien que ça ne va pas du tout. Les surveillants, ils n'en peuvent plus, les détenus non plus. Il y a beaucoup de charges émotionnelles aussi. Et évidemment, quand on est enfermé, c'est la possibilité de perdre un petit peu la patience et tout ça. Je veux dire, c'est peut-être le lieu où c'est le plus important qu'il y ait de l'aide pour pouvoir justement s'ouvrir un peu, détendre un peu. Et puis refaire le clair mentalement, pour voir la situation où on en est. Parce qu'en fin de compte, comme je disais tout à l'heure, chaque expérience de vie, ça peut être un moment pour reprendre confiance en soi, reprendre maîtrise de soi. Et là, c'est sûr que c'est des situations très difficiles. C'est un moment de calme, un moment de retour vers soi, un moment où ils vont pouvoir... C'est une évasion, en fin de compte, mais une évasion intéressante parce qu'on reprend, c'est pas pour rêvasser simplement, et c'est pour reprendre confiance en soi, reprendre vraiment l'énergie qu'il faut pour pouvoir affronter tout ce qui vient et pas céder peut-être à une dépression qui peut s'installer vite, des angoisses, des choses qui peuvent mener même à des choses graves.
Alors, retrouver le calme en soi dans un milieu, une maison d'arrêt, on sait que, enfin, on imagine qu'il y a beaucoup de bruit, des bruits bien particuliers, de portes,
de clés, de portes, de cris.
Comment on peut se détendre dans un univers comme ça?
Et justement, c'est ça qui est très fort, et je les trouve très très fort, toutes ces personnes que j'ai vues depuis quelques années. Il y a des gens pour qui ça a été une révélation. En fait, il y a des gens qui viennent sans savoir aucune idée de ce que c'est le yoga, simplement parce qu'ils ont vu sur le tract que justement ils allaient reprendre un peu leur corps, leur souffle et puis leur mental. Je marque un petit peu ces trois plans, parce que c'est ça, on souffle dans le corps, souvent ils ont des problèmes, des douleurs. En plus, ils font de la muscu et ils se bousillent bien à la muscu aussi, parce qu'ils font pas trop les choses. Alors on en parle, voilà, il y a un échange. Il y a l'échange philosophique qui est très important, parce qu'ils ont des questionnements. Tout cet apport du yoga, vraiment, c'est quelque chose qui va être très important, parce qu'ils vont l'emmener avec eux après aussi en cellule. Et quand ça va plus, alors c'est dur, c'est encore plus dur dans ce milieu-là, ça c'est certain. Là, c'est pour ça que je suis très admirative quand ils reviennent et qu'ils me disent qu'ils ont passé un meilleur week-end parce qu'ils ont pu prendre et respirer et calmer le jeu, parce que c'est... Je pense que c'est l'endroit le plus dur pour pouvoir... Mais justement, c'est peut-être là où tu es le plus forcé. Je pense que la plupart des personnes que j'ai vues en prison, c'est des gens que je n'aurais jamais vus, ils ne seraient jamais venus dans un cours, peut-être. Ils n'auraient jamais connu le yoga, parce qu'ils n'y auraient jamais pensé, peut-être. Et donc, du coup, ça donne une ouverture, une porte. Et puis, ça laisse aussi la possibilité, dans la discussion... de voir qu'il y a aussi d'autres choses à la maison d'arrêt qui peuvent aussi s'inscrire, ou voir justement la psychologue. Je suis en relation avec l'infirmerie aussi. On discute, donc les infirmières, elles sont aussi là pour me dire, lui, il ne va pas bien du tout. Donc, il y a aussi recherche contre l'addiction, mais il y a aussi l'urgence du moment. Je me suis déjà vue recevoir quelqu'un juste une fois, parce que il venait d'entrer et puis que j'étais là et ça s'est trouvé comme ça. Bon, ça c'est une fois normalement, ils s'inscrivent et ça se fait dans les règles de l'art. S'ils sont pas inscrits, ils peuvent pas venir, parce qu'il faut que ce soit en accord avec la direction, la psychologue, l'infirmerie, enfin tout le monde, vu que eux ils connaissent l'ambiance, ils savent les gens qui peut-être ne voudraient pas se rencontrer dans une activité, Puis il y a d'autres activités. Là c'est important de pouvoir faire plein de choses pour pouvoir sortir de soi. L'atelier d'écriture est super important, par exemple. La poterie, il y a des choses qui ça fait sortir de soi, vraiment, tout ce qui va déranger. Et puis ça nous reconstitue, ça nous restructure.
Alors, la première fois qu'on va dans une maison carcérale, une maison d'arrêt, pour donner un cours de yoga, quel est l'état d'esprit? Comment vous êtes préparé à ce que tout se passe bien? Est-ce qu'il y a des appréhensions?
Disons que moi, le directeur qui m'avait embauché et le directeur de la maison d'arrêt, qui ne me passait pas une embauche comme ça, le directeur du SPIP, ils ont été tous les deux vraiment super. Ils m'ont bien présenté la maison d'arrêt, ils ont bien présenté ce qu'ils voulaient de moi. Et puis j'ai dit, j'essaye. De toute façon, en fin de compte, c'est ça, j'ai appris avec le temps c'est comme là, je viens, je ne suis jamais venue parler dans une radio. Je me suis dit, on va voir. Oui. Je viens, j'essaye de ne pas me mettre des idées en tête. En fin de compte, c'est ça le yoga aussi. C'est difficile d'être... c'est pour ça, dans la vie de tous les jours, évidemment, j'étais un petit peu... premier jour, je me suis dit, comment je vais m'en sortir? Mais en fait...
Avec l'envie de leur apporter quelque chose, tout de suite. En fait.
De toute façon, c'est pour ça que j'enseigne le yoga aussi. C'est parce que j'ai vraiment envie de... Pour moi, ça fait beaucoup de bien. En fait, je l'ai expérimenté, je l'expérimente toujours, parce qu'on n'a jamais fini d'apprendre. Je suis toute petite dans cette immensité qui est possible. Et en fin de compte, ça me fait plaisir vraiment de voir que des gens arrivent à reprendre eux-mêmes. En fait, c'est l'autonomie. On est tout le temps dans nos sociétés en train de nous dire « Attends, on a la solution, on va te réparer, on va te guérir, on va faire ci, on va faire ça. » Et en fin de compte, les gens sont un peu démunis. Ils font confiance, ils mettent la confiance dans l'autre, parce qu'ils croient que l'autre, il est peut-être plus savant, plus... Mais qui peut dire mieux que toi-même ce que tu ressens dans ton corps? Et je pense qu'avec un médecin, avec n'importe qui, tu dois être en collaboration. Tu ne dois pas te fermer sur toi-même en disant « moi, je ne sais pas, lui, il sait ». Mmh. Voilà. C'est un peu la... notre société, elle attend ça tout le temps. On attend du président de la République qu'il résolve tous les problèmes. Mais nous, qu'est-ce qu'on peut faire chacun de nous pour notre vie, pour la vie de tous, voilà. Et ça, c'est être en yoga aussi.
Donc, première expérience, vous ressortez comment le premier jour?
Bah, c'est sûr que j'étais quand même un peu dans l'émotion le premier jour, parce que bon, je sais pas du tout, je connaissais pas ce... Puis c'est un milieu que d'hommes et tout. Bon, c'est vrai qu'il y a la relation avec les surveillants, il y a la relation avec la direction, avec les infirmières, avec... c'est un tout, avec les personnes détenues. Et en fin de compte, franchement, vraiment, moi, j'ai eu que des... Enfin, j'ai absolument à me plaindre de personnes, quoi. Mm-hmm. De personnes détenues. Si elles venaient, c'est parce qu'il y avait quelque chose, voilà.
Et alors, c'est arrivé que des personnes s'inscrivent, donc c'est volontaire, bien sûr, et fassent qu'une séance où ils ont...
Oui. Ah oui, bien sûr, ça arrive qu'il y en a, bon, ça les intéresse plus ou moins, d'autres pas du tout. Mais ceux qui restent, ceux qui sont les plus assidus, ceux-là, il y a vraiment quelque chose qui se passe. Mmh. Bon, des fois, c'est sûr, ça dépendait des années. Hein. Il y a des années où il y a eu beaucoup de gens qui sont vraiment restés. Qui... Après, je vous dis, le vécu d'une maison d'arrêt, c'est aussi... quand tu sais que tu vas sortir dans quelques jours, bon bah voilà, tu laisses par exemple. Donc il y en a, ils s'étaient inscrits, puis ils s'en vont, donc ils viennent plus ou ils sont transférés ailleurs. Donc il y a ça aussi. Mais après, il y a aussi la personne elle-même qui se voit pas dans le... qui ça l'intéresse pas. Après, il y a eu des gens très, très costauds, des gens qui faisaient de la boxe thaï par exemple, tu vois, donc qui arrivent avec... une connaissance. Il y a plein de gens qui ont déjà des connaissances aussi, qui ont déjà des parcours, qui ont abordé un petit peu des techniques ou qui ont lu des choses un peu plus spirituelles, etc. Il y avait des échanges intéressants. Mais bon, ceux qui faisaient de la boxe thaï, qui étaient très, très costauds et tout, ils venaient pour continuer à se détendre. Et puis, ils découvraient qu'ils étaient drôlement raides, par exemple. Il y avait des trucs qu'ils n'arrivaient pas à faire, malgré leur ressenti d'être puissants. Et du coup, c'est bien, ça éveille plein de choses. Puis, je vous dis, il faut rester humble, de toute manière... Voilà, il y a des résultats, ça c'est sûr, et le yoga en maison carcérale, c'est clair que c'est important, c'est clair. C'est une chose, c'est comme une fenêtre ouverte, hein, de toute façon, vraiment. Et je vous dis tous les retours, parce que voilà, après, quand chaque personne vient, pour le suivi de l'activité, puis le suivi de ce qu'ils font aussi, les personnes signent leur présence, et à la fin de chaque séance, il y avait une fiche d'évaluation mise en place par le CODES et puis l'hôpital, etc., pour évaluer un peu l'activité. Et donc, tu finis par... Ils marquent à la fin de la séance ce qu'ils ont... Voilà, il y a des petites cases à cocher. Ça m'a plu, ça m'a pas plu, ça m'a déplu. C'était bien, j'ai eu un apport de connaissances. Enfin, plein de choses comme ça. Mm-hmm. Et du coup, les retours sont... sont super. J'ai jamais eu de retour en disant c'est pourri. Mm-hmm. Bon, les gens qui venaient plus, voilà, ils ont pas mis non plus que c'était un cours pourri. En général, les gens sont contents, mais... Des fois, le cours est super parce que ça se passe super bien. Puis des fois, c'est un peu plus perturbé parce qu'il y a justement des choses qui sortent. Mais mm-hmm. c'est bien. C'est vraiment... Tout est intéressant quand ça sort et que les gens se disent...
Ça sort, c'est-à-dire par la parole, par la parole. Les pleurs. Non, il n'y a pas de...
C'est très rare. Ça m'est arrivé, mais c'est très rare. Franchement, c'est des gens un peu endurcis aussi quand même. Donc des fois, par contre, oui, d'arriver à lâcher un petit peu. Mm-hmm. Et puis d'entrer dans cette nouvelle vision des choses. C'est pas évident, quand même. C'est pas évident, c'est sûr. Et puis, il y a aussi le côté physique. Quand tu es enfermé, par exemple, tu n'as plus d'horizon. Donc, il y a le yoga des yeux aussi, que j'ai pratiqué un peu. Bon, pas tout le temps. En fait, je m'adapte à ce qui se passe. Hein. Les gens, ils arrivent, ils sont dans une situation. Je sens un petit peu ce qui se passe et puis j'essaye d'adapter au ressenti du moment. Quoi. Ça, c'est, dans tous les cours, c'est pareil. Hein. Et le yoga des yeux, ça fait vraiment énormément de bien parce que, à force d'avoir une vision très courte comme ça, tes yeux, ils se règlent d'une certaine façon. Et en fin de compte, quand tu ressors, toi, t'as plus cette. Les yeux, ils finissent par se crisper aussi, la musculature. Donc, de travailler tes yeux, c'est important. Leur donner de la distance, de faire comme si tu passais les murs. Mm-hmm. Tu sais, tu. Et c'est important parce que les yeux, ils sont toute la journée avec toi, là. Et en plus, on a les ordi, les tablettes, même dans la vie. Voilà, et ce que je dis souvent aussi en prison, c'est qu'il y a des gens qui sont à l'extérieur, qui sont en prison. Enfin, je veux dire, dans leur tête. Mmh. Parce que la prison, c'est pas seulement des murs dans lesquels on t'enferme. Il y a des gens, ils sont en prison, ils sont libres. Parce que voilà, c'est l'histoire de la conscience. Hein. C'est très important, ça. Mmh. Et ça, quand ils ont compris que, en fin de compte, voilà, quand ils étaient dehors, peut-être ils étaient plus en prison encore que là, quand ils sont dans la problématique dure, cruelle, parce que c'est pas facile de toute façon. Hein. Et ben ça, voilà. ça fait avancer, quoi. Ça fait avancer. Et d'accepter les choses comme elles sont, c'est dur aussi, surtout quand t'es enfermé. C'est sûr, ça, c'est terrible. Ça. Mais en même temps, il faut l'accepter. Mmh. Et puis, il faut le faire évoluer, ce fait-là. Il faut évoluer soi-même, faire évoluer le truc et faire évoluer la société. Parce que quand on est en prison, je pense qu'on a beaucoup de choses aussi à apporter après pour ceux qui restent. Pour ceux qui sont... Quand on est sorti, voilà, il y a des choses certainement... À dire, quoi, je veux dire...
Alors, on parle de la maison d'arrêt, mais il y a aussi le milieu ouvert, qu'on appelle, c'est ça. Ouais. Est-ce que vous pouvez intervenir aussi quand la personne est simplement en milieu ouvert ?
Non, là, pour moi, je n'ai pas connu ça. Pour moi, simplement, c'était des conventions.
On m'a suivi, oui.
Des conventions qu'on remet chaque année en cause, en fait. Chaque année, on ne sait pas si on va reprendre l'année d'après ou quoi. C'est une décision, parce qu'il n'y a pas que l'activité yoga, justement, hein, il y a d'autres choses. Et puis que dans cette maison d'arrêt particulièrement, c'est une petite maison d'arrêt, quoi. C'est pas, il n'y a pas des grandes pièces, y a pas, on ne peut pas non plus pousser les murs, quoi. Mm-hmm. C'est sûr.
Mais... qu'est-ce que je voulais vous demander ? Oui, vous êtes donc informé avant les cours du parcours de chacun ? C'est utile, ça ? Non.
Non, puis ça, voilà. Je ne veux pas, de toute façon. J'ai jamais souhaité... Non. Il y a des fois où la personne détenue va le dire d'elle-même, elle va parler, voilà. Souvent, c'est quand c'est en cours individuel, par exemple, c'est plus facile. Et là, voilà, elle peut se dire plus de choses. Mais non, je ne cherche pas du tout à savoir, parce que... Je pense que c'est mieux de ne pas savoir. Parce que sinon, après, je vais être portée à juger, moi aussi. Mmh. Et je n'ai pas envie d'être dans le jugement. Donc, non, je crois qu'il ne faut pas savoir, en fait. Si la personne me le dit, elle me le dit, ça reste entre nous. Et puis, c'est tout. Et je comprends peut-être mieux sa problématique. Mais en même temps, de toute façon, les gens sont en souffrance, voilà. Ça, c'est clair. Donc,
Alors, ce sont des personnes qui sont justement, normalement, pour un temps court, parce qu'en attente de jugement, c'est ça ?
Alors, c'est ça. Après, je ne sais pas exactement. Il y a des gens qui sont en attente de jugement. Il y a des gens qui sont jugés aussi, dans cette maison particulièrement, vous voulez dire ?
Oui.
Non, après, il y a tout un système interne. Moi, je ne rentre pas dans leur... Mais je sais, oui, parce que j'ai vu qu'il y a des personnes qui venaient qui n'étaient pas encore jugées, qui étaient... Et après, des personnes qui étaient jugées. Mmh. Et effectivement, il y a... Alors là, ça, ce n'est pas moi qui vous dirais le... Le fonctionnement de tout ça, je sais pas. Hein. Je sais pas vraiment. Là, c'est...
Et pour vous, l'expérience, donc, il y a une expérience humaine, évidemment. On peut s'attacher aussi aux personnes avec qui on pratique le yoga. Comment vous êtes quand vous rentrez chez vous après avoir exercé, si on peut dire, dans des murs ?
Oui, c'est vrai que c'est... En plus, je venais pour... pas pour un seul cours, je venais pour... 3 heures de présence entière, quoi. 3 heures, un peu plus des fois, mais en général, c'est 3 heures. Voilà, j'avais 2 cours qui se suivaient. Oui, c'est vrai que c'est... Après, c'est un travail sur... Le prof, il faut qu'il travaille aussi sur lui, hein, je veux dire. Que, bien sûr qu'il y a des gens qui me plaisent plus que d'autres. Il y a des gens avec qui il y a eu une super... presque complicité, quoi, je veux dire, d'entente, mais c'est simplement mental, quoi. C'est sur la philosophie, sur toute cette beauté, en fin de compte, de la vie, hein, c'est sur tout ça. Après, bien sûr, il y a eu certaines fois où j'avais institué un cours, en sortant de la maison d'arrêt, j'avais un cours collectif. J'étais pas très loin dans ma salle et tout. Mmh. Et en fin de compte, j'ai arrêté ça parce que, effectivement...
C'est perturbant.
Oui, disons que j'ai besoin après... Enfin, j'avais besoin après, quand je sortais, de... Voilà, quoi, de respirer, d'être dehors, d'apprécier. Mais c'est toujours pareil. Si tu vis le moment présent et que tu essayes de le vivre calmement, en étant éveillé, en étant conscient de ce qui se passe, même si c'est douloureux, même si c'est agréable, de rester dans la même ambiance intérieure, quoi, c'est ça aussi. Donc, après... C'est sûr, il y a des gens avec qui j'ai eu plus de connivence, d'atomes crochus, on dira, hein, puis d'autres un peu moins. Mais en général, quand même, non, tout le monde a été important. Tout le monde est important, en fait.
Alors, un petit oubli, et on va pallier à ça. Vous aviez envie de nous parler de 3 livres.
Oui, c'est des livres que j'ai fait circuler un petit peu en maison d'arrêt, justement, et qui peuvent amener quelque chose, même à ceux qui ne sont pas en maison d'arrêt. C'est un livre de Michel Vaujour, qui a passé beaucoup de temps en prison, beaucoup, beaucoup, hein, quand je dis beaucoup, et qui a écrit un livre qui s'appelle « Ma plus belle évasion », et où il décrit un petit peu son parcours depuis son enfance. Et donc, « Ma plus belle évasion » de Michel Vaujour, je le conseille aux personnes détenues ou pas détenues. Il y a « Le guerrier pacifique » aussi de Dan Millman, qui est un petit peu un roman, mais qui s'inspire d'une histoire vraie. Et puis, il y a un monsieur qui est décédé et dont je viens à peine de lire le livre. Donc ça, je ne l'ai pas fait circuler, mais ça ne valait pas la peine, mais ça valait le coup, de Hafed Ben Othman. Voilà, c'est quelqu'un qui a passé aussi beaucoup de temps en prison et qui, dans son livre, explique qu'il s'est senti libre en prison. Alors bon, voilà.
Lydie Aubert-Gosselin, donc professeure de yoga, vous enseignez donc aussi en dehors du milieu carcéral. Qu'est-ce que vous avez envie de dire, que je répondre à une question que je ne vous ai pas posée, qui est essentielle pour vous?
Une question que vous n'avez pas posée. Je crois qu'on a fait un petit peu beaucoup bien le tour, mais pour conclure, peut-être simplement dire que c'est une technique. Il faut se rendre compte quand même aussi de cette beauté, c'est que ça vient... On date de 5000, 6000 ans à peu près, avant même l'écriture, avant tout ça. Donc de penser qu'il y a des êtres, il y a 5 ou 6000 ans, ou même peut-être 4000 ans, allez, on ne se bagarre pas sur les années, mais que ces êtres-là aient eux-mêmes trouvé, cherché en eux-mêmes toute cette sagesse, cette force, cette énergie pour pouvoir évoluer, avancer dans la vie, pour pouvoir ne pas rester que simplement... Un petit humain qui fuit, qui combat, qui est inconscient, qui tremble devant la vie, et que ce soit maintenant, en 2018, là, on vous en parle, et on peut encore le pratiquer, moi, je trouve ça absolument merveilleux, que cette petite chaîne-là de gens, d'inconnus, de plus connus, toute cette petite chaîne-là qui vient jusqu'à nous et qui vient nous aider encore, parce que l'homme, il n'a pas évolué, en fin de compte. On a évolué dans des techniques... On est capable d'aller sur la Lune, de faire une intelligence artificielle qui, il faudrait peut-être voir d'ailleurs ce que ça va devenir. Et en fin de compte, nous-mêmes, dans notre propre recherche humaine, on ne sait pas qui on est. Donc voilà, moi, je voudrais bien que les humains ils s'éveillent. Voilà.
D'accord. Lydie, merci de votre intervention sur nos ondes, Fréquence Mistral. Et on retrouvera donc cette émission en ligne sur le site.
Merci beaucoup.
Nos émissions. Une très belle journée et continuez d'éveiller les consciences.
Et puis d'éveiller la mienne aussi. Parce
voilà, il y a toujours de quoi faire.
Exact.
Merci, très belle journée. Au revoir.
Merci à vous aussi, au revoir.